que nous rencontrons d'autres chrétiens. Nous aimons bien connaître leur croyance, le détail de ce qu'ils croient, pour voir si leur foi est basée sur la parole de Dieu. Et il y a des points sur lesquels nous pouvons admettre de ne pas avoir la même vision exacte. Mais il y a des choses essentielles. Des choses sur lesquelles on ne peut pas transiger, on ne peut pas négocier. Le fait que Jésus-Christ est né d'une vierge sans péché. Le fait qu'il est mort à notre place, le fait bien sûr qu'il est venu en la personne de ce petit bébé, et surtout le fait qu'il va revenir. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une certitude pour le chrétien. Et pourtant, dans beaucoup de groupes de chrétiens, on ne préfère pas parler de toutes ces choses. On n'aime pas parler de prophétie parce qu'il y a trop d'interprétations différentes. C'est trop sujet à caution, c'est pas sûr. Et pourtant, si on refuse d'étudier les prophéties dans la Bible, c'est comme si on arrache un tiers de la Bible. Un tiers de la Bible, à peu près, en volume, parle de prophétie. Et ça, c'est une des grandes distinctions de la foi chrétienne avec toutes les autres religions. Dans aucune autre religion, on trouve des prophéties qui ont été déjà exaucées, qui vont s'exaucer en nombre si important. C'est une caractéristique essentielle de la foi chrétienne. Nous avons déjà parlé de notre approche de la fin des temps, de comment nous voyons les choses. Et nous reconnaissons que certains autres chrétiens ont d'autres interprétations quant à la chronologie des événements de la fin des temps. Mais ma conviction, c'est que l'Église va être enlevée, les chrétiens vont être enlevés avant le début de cette période terrible que la Bible appelle la Grande Tribulation. Que nous serons avec le Seigneur dans les cieux, et qu'au bout de 7 ans, au bout de cette période de grande tribulation, nous reviendrons avec le Christ pour établir, lui va établir son royaume sur la terre pendant 1000 ans. Encore une fois, on peut choisir de ne pas être d'accord avec cette chronologie, mais la Bible ne nous laisse pas le choix du retour de Christ. Et elle nous exhorte à vivre dans cette attente. Jean disait que cette attente nous purifie. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui le Seigneur est pur. Jean 3:3. Et c'est vrai, si on se dit qu'à tout moment, le Seigneur peut revenir, il y a peut-être des activités dans lesquelles on n'aimerait pas qu'il nous trouve. Un peu comme quand vous avez des invités qui arrivent. Je ne sais pas si vous êtes comme Nancy. Comme moi aussi, bien sûr. On aime bien ranger un peu la maison avant que les invités arrivent. et ils vivent comme nous chez eux. Mais si on va chez eux aussi, ils veulent que ce soit propre. Et si on sait que le Seigneur va revenir d'un moment à l'autre, on a cette tendance à se dire, je ne dois pas faire des choses impures. Je dois vivre comme il le veut. Mais cette attente, elle nous donne aussi la paix. Vous vous souvenez des paroles de Jésus à la veille de son sacrifice? Jean 14, 1 à 4. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures de la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, et où je vais, vous en savez le chemin. Cette attente, elle nous aide à vivre le présent. Tite 2:10 disait « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, Titus, a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance, c'est-à-dire le retour de Christ, et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. » Et en fait, cette certitude du retour, elle nous donne une autre perspective sur la vie. On s'aperçoit que notre vie présente sur la terre, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan de l'éternité. On ne met pas tous nos efforts pour rendre cette goutte d'eau belle et parfaite. Cette certitude, elle a permis à des millions de chrétiens dans l'histoire d'endurer les persécutions. Elle nous donne un vrai sens des priorités dans notre vie. On peut souffrir, et nous sommes tous appelés à souffrir, parce que nous vivons dans un monde qui est affecté par le péché, et que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Mais on sait que ce n'est pas la fin. On sait qu'il y a autre chose après. Et donc l'enseignement du retour de Christ, c'est une chose essentielle pour l'Église. Le mercredi, nous allons reprendre notre étude de l'Apocalypse. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la Bible parle de prophétie de façon directe, comme nous avons étudié la prophétie de Daniel 9, des 70 semaines. Mais elle peut le faire aussi de façon imagée. By pictures. Ça fait 6 mois que nous avons passé à étudier le livre de Josué. Nous avons rappelé que, comme Paul le disait, ces choses ont été écrites pour notre instruction, nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Et donc nous avons vu qu'en fait c'était une préfiguration de notre voyage personnel. Comment l'entrée en terre promise, c'était une image de notre entrée dans la vie remplie de l'esprit. Nous avons insisté pas mal là-dessus. Mais à plusieurs passages, dans plusieurs cas, j'ai fait allusion à des images prophétiques. J'aimerais donc consacrer une petite revue de Josué. En montrant la dimension prophétique fascinante de ce livre. Et je dois confesser tout de suite que ce n'est pas mon idée, que ce n'est pas moi qui ai trouvé ça tout seul. Mais j'étais inspiré beaucoup par des études du pasteur John Corson. Un pasteur que je cite souvent, avec Alan Redpath et Scruggy. Alan Scruggy. But. Et on va voir, en reprenant certains des événements du livre de Josué, qui sont en fait une préfiguration de la fin des temps. Et tout d'abord, le nom de Josué. Je m'appelle Pierre. Les Anglais ont tendance à m'appeler Peter. Les Italiens m'appellent Pietro. Les Russes, peut-être Piotr. Donc le même prénom peut avoir différentes orthographes et prononciations. Josué, en fait, c'est le prénom qui vient de Yehoshua, qui veut dire en hébreu Dieu est salut, Dieu sauve. Le nom de Yehoshua a été remplacé dans le langage grec par le nom de Jésus. Qui est devenu en français Jésus, en anglais Jesus. Mais c'est le même prénom. C'est le même salut de Dieu. Et si nous rejetons Jésus, nous rejetons son salut. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a pas de salut annoncé sous les cieux par lequel nous devons être sauvés que celui de Jésus-Christ. Il faut faire attention parce que certains pensent que Jésus c'est le prénom et Christ c'est le nom de famille. Jésus c'est le prénom, le nom, mais Christ c'est sa qualité de témoin, de Messie. Donc le nom nous pointe tout de suite déjà vers Jésus et tout ce que Jésus va faire, Jésus qui doit être le centre de notre vie. Dans Josué 1,15, l'Éternel, Dieu parle à Josué pour lui dire qu'ils doivent venir prendre possession du pays que leur a donné l'Éternel. En fait, c'est Josué qui parle aux Israélites. Et donc, Josué est chargé de conduire le peuple pour prendre possession du territoire que Dieu leur a donné. Il y a un problème parce que dans cette terre promise, il y a des personnes qui ne devraient pas y être. Ce sont ce qu'on pourrait appeler des usurpateurs. Ils prétendent que c'est à eux, alors que dans la Genèse 15-18, l'Éternel avait dit à Abraham, « Je donne ce pays à ta descendance. » C'est vrai que pendant 400 années, les descendants d'Abraham ont été exilés en Égypte. Et pendant ce temps-là, les habitants de la terre promise, les Cananéens, s'étaient multipliés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça, c'est un parallèle de notre situation présente. Nous voyons le mal qui règne dans le monde. Et en fait, c'est parce que Satan usurpe son pouvoir sur la planète et ses habitants. À qui appartient la terre ? Le psalmiste nous dit que c'est Dieu qui a créé la terre. C'est au Seigneur, psaume 24, c'est au Seigneur qu'appartient le monde avec tout ce qu'il contient, la terre et ceux qui l'habitent. Mais cette terre qui appartient à Dieu, Dieu l'a confiée, l'a donnée à l'homme. Genèse 1, 28, Dieu a béni Adam et Ève et leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, elle est à vous maintenant. Mais nous savons que Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ils ont obéi à Satan, qui leur disait, mais pourquoi vous prenez pas de ce fruit interdit ? Bien sûr que Dieu vous a interdit d'y toucher, parce que si vous en mangez, vous serez comme lui. Et une chose, il y a un principe éternel, Romains 6, 16, si on se livre à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, on devient esclave de celui à qui on obéit. Et donc, en devenant esclave de Satan, en obéissant à Satan et devenant esclave, l'homme a renoncé à son droit de propriété de la terre. Un esclave dans l'Antiquité n'avait absolument aucun droit. Tout ce qu'il pouvait, entre guillemets, avoir appartenait à son maître. Et depuis ce moment-là, Jésus nous dit que le prince de ce monde, c'est Satan. Paul nous dit que le prince, le dieu de ce siècle, c'est Satan. Un Jean 5, 19 nous dit que le monde entier est au pouvoir du malin. Les médias nous disent tous les jours que le monde est aux mains de Satan. Il suffit de regarder les nouvelles. Il suffit de regarder les guerres. Les attentats, le terrorisme, la violence, la pédophilie, c'est rien. Les problèmes de drogue, le trafic de toutes sortes. À côté d'ici, la prostitution, il suffit de se promener vers ou de passer vers minuit, on voit toute la prostitution avec toutes les souffrances que ça représente. Vous vous souvenez que Satan disait lorsqu'il a tenté le Christ, je te donnerai ce ce pouvoir sur la, et la gloire de tous ces royaumes qu'il lui montrait. Car elle m'a été remise. Et je la donne à qui je veux. C'était une tentation très difficile à résister pour Jésus, parce que justement il venait pour prendre possession du royaume, des royaumes de la terre. Jésus a répondu en utilisant la parole, mais il n'a jamais contesté ce que Satan venait de dire. Alors peut-être que vous dites, mais c'est un blasphème, parce qu'à la croix, Jésus a vaincu Satan. Je suis d'accord avec vous, Dieu merci. Mais Satan usurpe sa puissance maintenant. Il fait croire aux gens qu'ils sont sous la domination de sa puissance, qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de pécher. Et c'est vrai que vous pourriez dire, Jésus, lorsqu'il parlait du prince de ce monde, c'était avant qu'il ne soit crucifié et ressuscité. Mais les épîtres, comme Jean, nous dit que le monde entier est toujours aux mains du malin. Et dans le livre aux Hébreux, la lettre aux Hébreux, il est dit au verset, chapitre 2, verset 8, Dieu a mis toutes choses sous ses pieds, parlant de Jésus. Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Et encore une fois, c'est n'importe qui peut le voir. Et le blasphème, c'est de dire comment est-ce que Dieu peut permettre cette violence, comment est-ce que Dieu peut permettre ces guerres, cette prostitution, ces crimes. Et encore une fois, en tant que chrétien, c'est très important que vous ayez une réponse aux gens qui vous demandent « Mais si Dieu existe, pourquoi ceci? Pourquoi cela ?» Le monde tel qu'il est, c'est pas le monde tel que Dieu l'a voulu. C'est le monde tel que Satan et le péché de l'homme l'a rendu. Dieu pourrait remettre les choses en ordre en un instant. Pourquoi est-ce qu'il attend? Parce qu'il nous aime. Et même nous qui participons au péché, il veut nous donner le temps de venir à lui. Nous vivons dans le temps de sa patience. Il veut que tous les hommes viennent à la connaissance de la vérité et à la repentance, c'est-à-dire de réaliser que tout ce temps nous avons fait fausse voie. Et dans l'Apocalypse, nous en avons parlé le mercredi, chapitre 5, il est question d'un document qui est scellé, qui a des sceaux dessus. Et tout le monde se demande qui est capable d'ouvrir ce document. Qui est digne d'ouvrir ce livre? Sans rentrer dans les détails, on a vu qu'en fait, dans les transactions immobilières à l'époque, il y avait des documents qui étaient ainsi scellés. Et en fait, beaucoup s'accordent à penser que ce document, c'est le titre de propriété de la terre. Et dans la fin des temps, donc, dans l'Apocalypse, on voit Jésus qui est seul capable de reprendre ce document et de reprendre possession de la terre. Il est très intéressant d'étudier dans l'Ancien Testament les différents types de rachat qu'il y avait. Vous pouvez racheter la propriété de quelqu'un qu'il avait vendu. On pouvait racheter quelqu'un de l'esclavage. Quelqu'un qui s'était vendu en esclave pouvait être racheté. Et on pouvait racheter la prospérité de quelqu'un qui n'avait pas eu d'enfant en donnant des enfants à sa femme. Jésus nous a rachetés de l'esclavage du péché. Il est dit dans Ésaïe qu'il nous a donné, il s'est donné une descendance, donc il a racheté une postérité. Mais il n'a pas encore racheté la terre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour être capable de racheter de cette façon, il fallait être un proche parent. Il fallait avoir les moyens de racheter. Il fallait être d'accord, il fallait être prêt à le faire. Et en Jésus, nous avons ces caractéristiques. Il est prêt à nous racheter. Il a été prêt à payer le prix pour nous racheter à lui. Et donc, l'histoire de Josué dans la terre promise, en train de reprendre la possession de tout ce territoire, ça nous projette à ce moment-là où Jésus reprendra possession de la terre, établira son règne de 1000 ans. Encore une fois, si vous ne comprenez pas tous les passages, il faut venir mercredi. Mais vous sentez qu'il y a des connexions incroyables, des comparaisons fantastiques. C'est absolument fascinant quand on commence à étudier un peu dans ce sens-là. Et ça nous permet de comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Sinon, on ne comprend pas. On se dit, mais Dieu, où es-tu ? La Bible a les réponses à nos questions. Mais nous devons la lire, nous devons l'étudier, nous devons croire que c'est la parole de Dieu et la mettre en pratique. Nous avons vu aussi au chapitre 2, nous avons vu que Josué a envoyé deux espions. Et nous avons dit qu'ils étaient plutôt en fait des témoins, parce qu'au niveau espionnage, ils ne rapportaient pas tellement d'informations. Et nous avons vu qu'ils avaient été des témoins auprès d'une prostituée qui s'appelait Rahab. Et qu'elle avait été invitée à mettre un cordon rouge à sa fenêtre pour être épargnée de la colère à venir. Dans l'Apocalypse, nous allons voir qu'il est question de deux témoins qui sont envoyés à Jérusalem. Je pense qu'il s'agit de Moïse et Élie, mais ce n'est pas l'important. Et une fois qu'ils ont annoncé la bonne nouvelle, ils sont mis à mort. Ils restent morts pendant 3 jours et ils sont ressuscités. Il est dit que c'est visible par tous les gens de la planète. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 100 ans, les commentateurs se posaient des questions. est-ce qu'un seul événement prenant place dans un endroit du globe pourrait être vu par toute la planète? C'était avant la télévision. Maintenant, on n'a plus de problème pour comprendre que ça peut se passer. Dans le cas de ces deux espions à Jéricho, ils sont restés 3 jours. Il est question de prendre possession, que Dieu allait déposséder devant les Israélites et Josué 7 nations. Alors que dans la Genèse 15, Dieu avait parlé de 10 nations qui allaient devoir être chassées de la terre promise. Et ça nous parle, ça nous rapproche de la prophétie de Daniel, où il est question d'un animal qui avait 10 cornes sur la tête, mais 3 des premières cornes furent arrachées. Et 10 moins 3 égale 7, ça c'est les nations. Les nations qui combattront le Seigneur à la fin des temps. Dans Josué 10, on avait parlé d'un certain roi de Jérusalem qui s'appelle Adoni-Tzedek. Il est dit, Adoni-Tzedek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé de Haï et l'avait voué à l'interdit, qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et demeuraient au milieu d'eux. Et donc, ce roi a entendu parler de ses habitants de Gabaon, qui avait peur des Israélites, qui réalisait la puissance de l'Éternel, du Dieu de ces Israélites, et qui avait utilisé une ruse pour pouvoir faire une alliance avec eux. Ils avaient fait croire aux Israélites qu'ils venaient de très loin, connaissant le fait que dans la loi, les voyageurs devaient être traités avec respect et courtoisie et bien, être bien accueillis. Et nous avons vu comment Josué et les Israélites étaient tombés dans le panneau. Ils avaient signé une alliance avec ces Gabaonites. Et là, ce roi s'aperçoit que ses habitants, ses voisins, sont maintenant alliés avec les Israélites. Son nom est intéressant, ça veut dire Seigneur de justice. Il règne à Jérusalem, cité de la paix. Littéralement, ça veut dire le fondement de la paix, Jérusalem. Et donc, il va se battre contre Josué, parce qu'en fait, c'est un faux seigneur de justice, un faux roi de la paix. Et ça nous parle de celui qui va s'opposer à Christ. Nous avons déjà plusieurs fois parlé de la prophétie de Daniel 9, 24. Les 70 semaines qui représentent 70 périodes de 7 ans. À partir du moment où le roi a permis le roi de Perse a permis la reconstruction de Jérusalem. Jusqu'à la fin des temps. Mais c'est là justement qu'on sait que le chronomètre de Dieu s'est arrêté à la 69e semaine. Time. Et que cette dernière période de 7 ans, c'est la période de la grande tribulation dont il est question dans l'Apocalypse. Et donc, il est question d'une personne, un prince, qui serait un personnage charismatique au sens de sa personnalité inspirant les foules, qui deviendrait un leader mondial, qui serait capable d'instaurer une paix provisoire, mais dont le but serait de se faire adorer à Jérusalem dans le temple. Il est appelé par différents termes. On l'appelle dans des passages l'homme impie, le fils de perdition. L'adversaire. Son adoration, c'est l'abomination de la désolation. Et donc, c'est l'Antichrist qui va se faire passer pour Christ et qui va s'opposer à Christ. Dans l'Apocalypse, nous avons vu qu'il y a un premier passage où il y a un cheval blanc monté d'un prince. C'est pas le Seigneur, c'est l'Antéchrist. Plus loin, nous voyons le Seigneur arriver lui aussi sur son cheval blanc, mais c'est le Christ lui-même. Et vous rappelez, le nom Tzedek veut dire justice, donc quelque chose qui est parfait au niveau moral. Dans la Genèse, il est question d'un autre roi, le roi de Salem, le roi de paix, et son nom c'est Melchizedek. Et lui, ça veut dire Melchizedek, ça veut dire le roi de justice et le roi de la paix. Si vous vous souvenez, dans la Genèse, il est expliqué que Abraham avait donné une dîme à ce roi de tous ses biens. Et en retour, Melchisédek lui avait donné du vin et du pain. Qui bien sûr nous fait penser au sacrifice de Jésus. À la Sainte Seine. Abraham l'a adoré, il est dit. Et donc cet Adonis Tzedek, il est comme un faux Melchizedek, comme Antéchrist est un faux Christ. Dans la bataille de Josué contre les adversaires du chapitre 10, il est question de pierres de grêle qui tombèrent sur les adversaires. Dans l'Apocalypse 6:15, il est dit que tous les hommes qui rejettent Dieu demandent aux montagnes et aux rochers de tomber sur eux pour qu'ils puissent se cacher et être loin de la colère de Dieu. And 16. la même symbolique, la même description. Le temps, vous vous souvenez que Josué avait prié pour que le soleil arrête sa course. Verset 12 du chapitre 10 de Josué, « Soleil, tiens-toi immobile sur Gabaon. » Et le prophète Zacharie nous dit que le jour de l'Éternel, le jour de sa colère, ça va être un jour qui n'aura ni jour ni nuit, et le soir, la lumière paraîtra. Là aussi, le jour sera allongé. Les Gabaonites, en fait, qui ont conclu un accord avec Josué pendant la bataille, pendant la conquête de la terre promise, ils nous font penser aussi aux personnes qui viendront à Christ pendant la période de la grande tribulation. Dans l'Apocalypse, Jean voit des âmes qui se cachent sous l'autel dans le ciel. Et en fait, nous avons étudié ça plus en détail. Nous avons dit que ces personnes représentaient des croyants qui étaient venus à la foi en Christ pendant la grande tribulation. Daniel disait qu'il avait été donné à l'Antéchrist de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et donc, on peut penser que pendant cette période de la fin des temps, où il y aura des choses terribles une fois que l'Église aura été enlevée, dans notre chronologie, beaucoup de gens viendront à Christ. Les amis, les parents, les chrétiens qui ont entendu parler de Jésus, de son salut, voyant que ces chrétiens auront disparu, et voyant les souffrances terribles qui vont tomber sur la terre, viendront à la foi en Christ. Et oui, bien sûr, c'est vrai, j'avais tort. Ce ne sera pas facile alors parce que l'Antéchrist les persécutera. Mais il y aura un grand réveil. Vous souvenez du sort qui avait été réservé aux Gabaonites? Ils étaient devenus des serviteurs dans le temple. Ils amenaient l'eau et le bois. Et dans l'Apocalypse 7:13, on répond à Jean qui demande qui sont ces personnes. Verset 7:14, ce sont eux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Et donc, ces personnes qui seront sauvées pendant la grande tribulation serviront comme les Gabaonites dans le temple de Dieu. On pourrait, en parcourant ainsi Josué, multiplier encore les exemples. Je veux juste vous faire remarquer dans Josué 14:10. On peut savoir combien de temps a duré la conquête de la terre promise. Parce que, vous vous souvenez, on a aimé parler de lui, de Caleb. il expliquait que ça faisait 45 ans qu'il avait été espionné la terre promise. Donc entre l'espionnage et la fin de la conquête, il y avait eu 45 ans. Mais il y a un autre verset dans Deutéronome 2,14 qui dit que le temps qu'ils ont passé à errer, donc depuis le moment de l'espionnage jusqu'au début de la conquête, le passage du Jourdain et le début de la conquête, il s'est passé 38 ans. Et donc, on voit que le temps de la conquête, ça a pris 45 moins 38 ans, c'est-à-dire 7 ans. Donc la conquête a pris le même temps, nous l'avons déjà évoqué, que la période de 7 ans de la Grande Tribulation. Nous, les chrétiens, nous allons être appelés à régner avec Jésus. Nous avons un rôle à jouer. Dans Josué 23, nous avions vu que Josué leur dit: l'Éternel, votre Dieu, les repoussera loin de vous, mais vous posséderez leur pays. Dieu fait sa grande part, et sans lui on ne peut rien faire, mais ça ne veut pas dire pour autant que le chrétien ne fait rien, le chrétien est irresponsable et se laisse vivre. Non, nous devons posséder le pays que le Seigneur nous donne. Et nous savons par la Bible que lorsque Dieu régnera sur le trône pendant 1000 ans sur la terre, nous aurons des responsabilités de gestion de la terre. Peut-être que quelqu'un ici sera responsable de Magnan ou de Nice, de Hanovre, de Ziegen. Peut-être ce sera toutes les Alpes-Maritimes. Tout ça pour dire que les Israélites devaient participer à la bataille, devaient s'engager. Nous aussi, nous devons le faire. La semaine dernière, nous avons parlé du fameux verset « Moi et moi, maison, nous servirons l'Éternel » Josué 24, 15. Et ça veut dire qu'il y a un choix à faire. Si nous prenons la parole de Josué, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Et nous avons vu que c'est légitime d'attribuer ces paroles à Jésus lui-même. Jésus dit quelque sorte, moi et mon Église, nous allons servir le Père. Dans l'histoire de la fin des temps, il est dit qu'après le règne de 1000 ans, Satan va être relâché. On se demande pourquoi. Parce que, encore une fois, c'est un choix que de suivre l'Éternel. Et toutes les personnes qui auront été sauvées pendant la période de la Grande Tribulation, elles n'auront pas eu à vivre sainement parce que le Seigneur imposera une vie pieuse. Et à la fin, ils auront aussi un choix à faire. On ne peut pas imposer, Dieu ne veut pas imposer aux gens de l'aimer, de le suivre. Parce que si je mets un pistolet derrière votre dos, je vous dis, dis-moi que tu m'aimes.
A gun.
Au bout d'un moment, you might say, je t'aime. Mais ça ne va pas faire grand-chose à mon cœur. Et de la même façon, le Seigneur, il veut que vous veniez à lui parce que vous l'aimez. Il vous laisse la liberté de choix à tout moment. Lorsque nous serons enlevés avant le début de la grande tribulation, nous serons sûrs de ne plus jamais revenir en arrière. Mais ces gens qui n'ont pas connu ça doivent faire leur choix à la fin du millénium. Et puis, il est expliqué que cette terre et les cieux disparaîtront comme un rideau qui se refermerait. Et nous vivrons pour toujours avec le Seigneur, dans des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous pensez que c'est une fable? C'est une jolie histoire. Ou est-ce que vous croyez qu'il y a un avenir avec Dieu que Dieu veut vous donner? Josué voulait s'assurer que son peuple entrait en terre promise. Jésus veut être sûr que vous entrez dans cette bénédiction de la présence de Dieu pour toujours. C'est important de réaliser qu'il pourrait revenir aujourd'hui même. Et certaines des autres chronologies mettent des événements avant le retour, ce qui fait qu'en fait on peut se dire, j'ai pas besoin de vivre comme le Seigneur le veut. Et quand je verrai le grand signe dans le ciel disant que le Seigneur arrive, alors là j'irai me confesser. Vous savez qu'il pourrait revenir avant même la fin de notre réunion ce matin? Il y en a peut-être qui disent oui, alléluia, j'en peux plus. Je vous invite donc à étudier la Bible. Nous avons survolé toutes les analogies possibles là. Mais cette richesse d'analogies, quand on a commencé à me la montrer dans la Bible, ça m'a convaincu que la Bible n'était pas une invention des hommes. Parce qu'il faut savoir que la Bible a été écrite sur une période de 1500 ans, en trois langues, sur trois continents, par 40 auteurs humains. Et en même temps, on voit cette harmonie unique. Comment l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau Testament, comment le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament. Et on commence à dire, c'est la parole de Dieu. C'est la bonne nouvelle qui dit que Dieu m'aime. Dieu veut me parler. Dieu a un plan pour ma vie. Pendant cette vie, et encore bien mieux pour l'éternité avec lui. Et là, le choix vous appartient. Amen. Prions. Seigneur, nous n'avons pas fait justice à la richesse de ta parole. Mais Seigneur, nous entrevoyons ces richesses, Seigneur, nous te remercions que tu nous as donné tant de choses à étudier, qui nous donne des éléments de réponse aux questions que se posent les hommes. Seigneur, nous te demandons de nous donner une plus grande compréhension de ta parole. Seigneur, nous te demandons aussi de nous aider à la vivre dans nos vies, à la mettre en pratique. Et Seigneur, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, je veux les inviter. Si on n'a jamais encore reçu le Seigneur dans votre cœur, la Bible dit qu'aujourd'hui c'est le moment du salut. Vous pouvez prier en silence cette prière avec moi. Dieu, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je te demande pardon pour mes péchés passés. Seigneur, je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés, que tu es ressuscité des morts. Je t'ouvre maintenant la porte de mon cœur. Je t'invite à venir dans ma vie. Je réalise que je ne peux rien faire pour mériter mon salut. Et je mets ma confiance complète en toi pour la vie éternelle. Fais de moi la personne que tu veux. Merci d'entendre ma prière et de me donner ce don de la vie éternelle. Pendant que nous sommes tous dans une attitude de prière, si quelqu'un a prié cette prière, je vous demanderai de lever la main. Pour que nous puissions parler ensemble. C'est la décision la plus importante de votre vie. C'est la décision qui va tout changer. Si vous sentez, vous avez envie de le faire, mais vous n'osez pas le faire encore, sachez que Dieu peut vous donner la force de le faire maintenant. Ou alors, vous pouvez le faire dans le silence de votre cœur à n'importe quel moment. Rappelez-vous, le choix vous appartient. Et Seigneur, pour ceux qui t'ont déjà fait confiance, aide-les à vivre dans la victoire, en te laissant remporter ces victoires, Seigneur, dans leur vie. Par le nom du Seigneur Jésus, nous prions ces choses. Amen. Amen. Que le Seigneur vous donne une bonne semaine. Si vous avez des passages que vous n'avez pas notés ou des choses, n'hésitez pas à venir me voir. Et je vous invite, si vous êtes intéressé par l'étude des prophéties, de venir le mercredi soir. Action, Seigneur.